Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello, hello et bienvenue dans cette nouvelle leçon du gratin. Avant de se lancer dans l'épisode du jour, petite piqûre de rappel les amis, si vous voulez postuler une leçon et vous êtes nombreux à me dire que ça vous intéresse, envoyez-moi un mail à hello@le-6gratin.fr. Moi et mon équipe, on vous répondra rapidement. Sinon, sur mon compte LinkedIn ou mon compte Insta, Pauline Léniaud, n'hésitez pas, là aussi, je suis réactive. Deuxième chose, vous êtes toujours plus nombreux à écouter le gratin, c'est absolument dément, je vous remercie, mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous n'avez pas tous laissé un avis sur iTunes, c'est incroyable. Même si vous n'êtes pas sur iPhone, je vous jure, ça se fait avec un desktop et avec iTunes, je vous promets. Donc si c'est pas déjà fait, pensez-y, ça serait ultra cool, blague à part, et en plus ça aidera peut-être d'autres personnes que vous à trouver le gratin, ce qui serait plutôt sympa, non ? Allez, maintenant je reviens à nos moutons du jour. Dans l'épisode, je suis avec Laurie qui se lance dans le business de la joaillerie digitale. Un sujet qui me parle, vous pouvez l'imaginer. Elle me pose la question suivante. Comment as-tu appréhendé le fait de lancer une marque innovante sur un secteur aussi traditionnel que celui de la joaillerie? En bref, que faut-il faire pour que ça marche quand on lance un produit disruptif qui n'existe pas encore? Alors là, j'ai envie de dire à Laurie, désolée, mais je ne vais pas pouvoir te répondre en 20 minutes seulement à cette question. Sinon, ma chère Laurie, je serais milliardaire, Gémeaux serait plus gros qu'Amazon et la vie aurait aussi quand même une saveur un peu moins sympathique. En revanche, j'ai pu aider Laurie à réfléchir à comment parler de son concept innovant, comment construire un argumentaire impactant, notamment évidemment au travers d'une plateforme de marque impactante. Ensuite, j'ai discuté avec elle de comment aborder ses premiers clients pour comprendre comment les adresser au mieux et donc évidemment les transformer. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Salut Laurie, bienvenue sur le gratin.
Bonjour Pauline.
Je suis ravie de t'accueillir. Laurie, est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, par me poser ta question et puis ensuite aussi, évidemment, te présenter?
Oui, bien sûr. Ben déjà, merci de m'accueillir.
Peut-être moi, d'ailleurs plutôt te présenter et ensuite me poser ta question.
Donc du coup, moi c'est Laurie, j'ai 27 ans et je suis la fondatrice de Lumisoli. Donc c'est une marque de joaillerie connectée en cours de développement. Donc voilà, on est sur une marque de joaillerie connectée qui est un petit peu différente de ce qu'on retrouve actuellement sur le marché, puisque nous avons la volonté en fait de moderniser le médaillon familial grâce à la technologie. Donc en quelques mots, d'accord, en fait, Lumisoli, c'est un collier joaillier qui vous permet de stocker, transférer et accéder à vos fichiers préférés, donc photos, vidéos, à tout moment et sans encombrer votre téléphone. Donc voilà, c'est un projet cool, qui est assez excitant. et en fait, ma problématique à moi, elle ressort un petit peu de pas mal d'échanges que j'ai eus avec d'autres professionnels du secteur, qui pour la plupart, en fait, me demandaient est-ce que je compte développer cette marque en propre ou est-ce que je compte en fait vendre ce concept à d'autres marques de joaillerie déjà bien établies.
Oui,
donc j'imagine
B2B,
que pour
quoi.
Eux, c'est certainement plus simple de vendre le concept, mais c'est pas trop ma volonté puisque j'ai une idée de développement en fait plus sur du long terme. Donc d'où ma question qui est donc comment réussir à développer une marque innovante sur un marché aussi traditionnel que celui de la joaillerie tout en réussissant en fait à créer ce sentiment de confiance avec une future clientèle, puisque il me semble que c'est quelque chose que vous avez vraiment très bien réussi à faire chez Gémeaux et donc je suis très curieuse d'avoir ton avis et tes conseils, tout simplement.
Alors, c'est une très bonne question, Laurie, mais je vais te dire un truc. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir y répondre en 20 minutes parce qu'en fait, ça fait 10 ans que j'y travaille avec Gémio que malheureusement, Rome ne s'est pas faite en un jour et que la réalité, c'est que si je pouvais te le dire en 20 minutes, bah, j'aimerais bien, hein, mais malheureusement, ça va être difficile parce que, et je pense que c'est ça le fin mot de l'histoire, il n'y a pas de recette magique, il y a beaucoup, beaucoup de travail, il y a plein de tests différents, il y a plein de choses différentes à faire et je vais pouvoir en discuter avec toi et te donner des conseils. Mais globalement, si tu veux, il n'y a pas une méthode, si tu veux, malheureusement simple, que je vais pouvoir te donner et qui va faire que c'est bon, t'appuies dessus et puis ensuite c'est fini, ta boîte va cartonner. J'aurais bien aimé pouvoir te dire ça, mais malheureusement, la vie de l'entrepreneuriat et puis la vie de façon générale, c'est pas ça. Donc en fait, ce que je peux te dire en revanche, tu as soulevé un point important, c'est que toi, ta marque quand même, elle est très innovante, très tech, d'après ce que je comprends, dans un secteur qui ne l'est pas forcément. Ça, il faut que tu le vois non pas comme un désavantage, mais au contraire, comme une énorme différenciation. Et s'il y a un conseil quand même que je peux te donner, c'est qu'évidemment, il faut que tu appuies dessus à 400% puisque bah, c'est ça qui va être l'ADN de ta marque, donc ta plateforme de marque. Ça va être cette innovation. Je pense que du coup, il faut que tu essayes de réfléchir au mieux à la manière dont tu vas pouvoir l'exprimer, donc à la fois à tes clients, à tes fournisseurs quand tu vas travailler avec des fournisseurs, à des financiers éventuellement, mais globalement, il faut vraiment que tu sois extrêmement solide dans tes argumentaires, dans tes mots, dans tes images, enfin à tout point de vue, c'est cette fameuse plateforme de marque, sur ben, qu'est-ce qui fait que vous êtes différent grâce à cette innovation. Ça, c'est un peu la base, si je puis dire, parce que si t'as pas ça, ben déjà, malheureusement, en fait, tes actions, notamment en marketing, elles vont forcément avoir un impact qui est beaucoup plus faible, beaucoup plus dilué. Et l'avantage que t'as, c'est que je te dis, je pense que, enfin, c'est clairement, je connais pas d'autres marques qui fassent ça, ça m'a l'air d'être un produit qui est assez unique pour l'instant, en tout cas. Et donc, je pense qu'il y a une vraie opportunité dans la mesure où bah, vous allez probablement être les premiers. Et donc, tu peux, quand tu es premier, être leader de ton marché, ce qui est toujours évidemment un énorme avantage compétitif et ce qui était le cas avec Gémio, puisqu'on était leader du marché des marques de joaillerie digitale.
Oui, tout à fait.
Et personnalisée. Donc, ça, c'est le premier point. C'est toi, en fait, concrètement, ma première remarque, c'est construire une plateforme de marque solide. Donc, je ne sais pas si tu as souscrit à la formation Growth. Si ce n'est pas le cas, j'ai envie de te dire,
mais
c'est pas pour faire ma pub.
Donc, voilà. Commencé à travailler dessus, mais c'est pas si facile que ça.
Je te conseille. Ça prend beaucoup de temps, ça va pas se faire en une semaine, ça va pas se faire en un mois, en fait, et surtout si je peux te donner un conseil, même si t'as pas écouté la formation en entier, c'est qu'en fait ça se reprend, c'est un travail qui s'affine dans le temps, mais il faut que tu commences dès à présent à le faire. C'est vraiment hyper important parce que ça va être un outil que tu vas utiliser tout au long de la vie de ta boîte, et en plus comme t'as l'air de vouloir inscrire la vie de ta boîte sur le long terme, ben c'est d'autant plus important si tu veux que t'aies vraiment ces outils solides dès à présent. Donc ça, je dirais que c'est le premier conseil. En gros, pour être simple, construire une plateforme de marque. Le deuxième conseil que je peux te donner, au-delà de ça, c'est en fait de connaître ton client, de comprendre et de connaître ton client. Ça paraît hyper simple, mais en fait, si tu veux, moi j'ai déjà parlé à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui travaillent sur des business très difficiles, et notamment construire une marque dans le secteur de la joaillerie. Je te le dis, je pense que c'est très difficile. Je dis pas juste ça parce que moi, c'est ce que je fais, mais en fait, c'est tellement émotionnel comme achat, c'est tellement quelque chose qui est inutile d'une certaine manière d'acheter un bijou, que tu vas pas du tout adresser un client qui achète un bijou, par exemple pour une naissance dans ton cas, de la même manière que tu vas adresser quelqu'un qui s'achète une paire de baskets, si tu veux, où finalement, oui, il y a aussi un univers autour, il y a des bénéfices, mais ça reste quand même un besoin fonctionnel. La joaillerie part du principe, en fait, ça n'est pas un besoin. Justement, on est en haut de la pyramide de Maslow, assez clairement. Et donc, en fait, comme il n'y a pas de besoin, bah, il va falloir que tu comprennes quels sont les triggers, quels sont les éléments émotionnels qui vont faire que ton client va vouloir désirer cet achat, alors même que j'imagine il a une certaine valeur financière. Et donc ce travail-là, si tu veux, c'est, j'ai envie de dire, le travail de toute une vie qui peut paraître très très pipeau, difficile, théorique, tout ce que tu veux. Mais en fait, la réalité, c'est que toutes les personnes que j'ai pu interviewer, notamment dans les métiers du luxe, que ce soit Alain-Dominique Perrin, qui a quand même fait passer Cartier de à peu près 5 millions de francs de chiffre d'affaires à 2 milliards, donc quelqu'un qui s'y connaît plutôt pas trop mal en termes de développement d'une marque de joaillerie. J'ai bientôt sur le podcast, il sera peut-être passé au moment où on diffuse cet épisode, Vincent Montalesco, qui est directeur marketing monde de Montblanc. Donc pareil, on est sur des produits de luxe. Toutes ces personnes, si tu veux, te disent une chose, ce qu'il faut, c'est que tu comprennes qui émotionnellement va faire tellement vibrer ton client qui va passer commande. Et donc, en fait, tout ton travail à toi au niveau de ta marque, en fait, ça va être vraiment de comprendre ça avec énormément de finesse. Je sais, ouais. Une fois de plus, hein, je connais les réactions des gens quand je dis ça, c'est « Oh là là, mais comment veux-tu que je sache ? C'est pipeau, c'est théorique, c'est pas concret. » Ouais, mais c'est la base. C'est la base,
non,
parce que si tu comprends pas
important.
Ça...
Bah, c'est vrai qu'en plus, on est vraiment sur un produit qui est très émotionnel, puisque justement, ça va être de l'exclusif sur le fait que c'est vraiment des fichiers auxquels on tient absolument. Donc, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être un mariage, etc. Donc, c'est vrai que c'est vraiment des moments exclusifs et très, très émotionnels. Il y a vraiment cet attachement. Et donc, voilà, c'est des moments importants, en fait, qu'on veut répertorier dans ce bijou. Donc oui, en effet, c'est très important de comprendre ce lien émotionnel avant toute chose. Je suis très d'accord.
Bah, donc du coup, pour faire ça concrètement, pour être simple, et ça c'est une fois de plus, moi je le fais, Alain-Dominique Perrin le faisait, enfin moi j'ai quand même une conversation mythique avec lui une fois, où il me dit que lui-même en fait, c'est quand même quelqu'un qui était à la tête d'une boîte une fois de plus, qui faisait 1 milliard de chiffre d'affaires à un moment donné, et qui dit je continuais régulièrement à parler à des clients, à vendre et surtout à faire aussi du SAV, c'est-à-dire que quand il y avait un problème, on lui passait le téléphone et il engueulait le gars en lui disant non mais un bijou c'est pas comme une bagnole, tu vois, il faut en prendre, enfin une bagnole aussi d'ailleurs, tu me diras, il faut en prendre soin, au contraire d'ailleurs, c'était même plutôt ça sa métaphore, c'est comme une bagnole, il faut en prendre soin, il y a un contrôle technique tous les ans, il faut faire attention, etc. Sinon, en fait, elle va pas durer dans le temps. Et en fait, ça, c'est quelque chose, je pense, qui est hyper fort. Moi-même, je le dis souvent, hein, je vais en boutique chez Gémio très régulièrement, on continue à faire des calls très régulièrement pour comprendre nos clients. Là, encore pas plus tard qu'il y a 2 semaines, on a lancé une mission pour comprendre un peu mieux notre clientèle autour de la boutique de Lyon. Donc, tout ça pour te dire que ce rôle-là de compréhension de ton client et de ton prospect aussi, parce qu'il y a une question qui est pourquoi est-ce que certaines personnes n'achètent pas et qu'est-ce qui va leur donner envie d'acheter ? Ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel et il faut que soit toi, tu y passes beaucoup de temps, et je pense qu'en tant que fondatrice, c'est probablement le cas, soit au moins, à défaut, quelqu'un de ton équipe le fasse, si tu veux. Et ça, j'insiste dessus parce que t'es pas en train de vendre une fois de plus. Enfin, c'est important pour n'importe quelle entreprise, mais c'est encore plus important pour une marque qui vend de l'émotionnel et un produit inutile comme de la joaillerie. Et donc, je pense que si j'ai 2 conseils à te donner, le premier, c'est la plateforme de marque. Donc, en gros, réussir à communiquer en fait ta vision quoi de manière claire, limpide, impactante, et pour ça bah voilà, je t'invite à vraiment vraiment la travailler. Et d'autre part, deuxième point, vraiment connaître ton client, c'est quelque chose sur lequel j'insiste énormément. Ton client, ton prospect, passe du temps, rencontre-les en vrai, dis-toi mais à quoi ils ressemblent, où est-ce qu'ils habitent, qu'est-ce qu'ils achètent comme marque, quelles sont les autres marques de joaillerie qu'ils aiment, c'est quoi l'alternative à mon produit, pourquoi est-ce que ça leur pose problème, quels sont les freins. Il faut que tu comprennes avant eux ce qu'ils vont penser. Ça va faire que tu vas avoir un marketing brillant qui va être très ciblé et donc que tu vas réussir à développer ton activité. Nous, je te donne un exemple, chez Gémio, on a beaucoup d'hommes qui achètent des bagues de fiançailles. Et en fait, bon, on a un type, je vais pas rentrer dans le détail de ce genre de personnes, mais en fait, si tu veux, on sait limite à l'avance où est-ce qu'ils vont faire leur demande en mariage. Je ne blague pas. On connaît tellement bien nos clients, qu'on sait très bien que quasi systématiquement, et c'est super, c'est hyper chou, en fait, ils ont besoin d'avoir un bijou qui va être dans un écrin qui ne sonne pas à l'aéroport, parce qu'en fait, systématiquement, ils vont faire leur demande en mariage quand ils vont partir en voyage avec leur future femme, et c'est super chouette. Ils sont en train de l'organiser à l'avance, et donc, bah, typiquement, comme on le sait, nous, dans notre discours de vente, déjà, on peut avoir un écrin qui est fait pour. Et d'autre part, bah, on sait déjà, quand ils commencent à nous expliquer qu'ils vont peut-être acheter le bijou, etc., et qu'ils veulent se fiancer, bah, on peut tout de suite leur faire comprendre qu'en fait, ils sont exactement au bon endroit, qu'on sait d'ores et déjà que si jamais ils souhaitent, par exemple, faire une demande à Bali, eh bien, l'écrin est tout petit, il va pouvoir se glisser dans une poche et ne sonnera pas la douane. Quand tu lui dis quelque chose comme ça, en fait, le client, si tu veux, il se dit qu'il est tellement au bon endroit qu'il ne peut pas ne pas acheter, si
tu veux.
Oui,
son problème est résolu directement, en fait. Donc, c'est
exactement.
Vrai que
en fait, tu penses à son problème avant lui. Et pour ça, bah, je te cache pas que c'est... Et exactement. En fait, exactement. Bah, en fait, il a l'impression de ne pas se tromper. Il a l'impression qu'il est là où il doit être. Et c'est ça, en fait, le travail d'une marque. C'est de faire comprendre à ses clients, et donc bien les viser, hein, parce qu'on ne s'adresse pas à tout le monde, qu'ils sont exactement au bon endroit.
Ouais. Et donc justement, bah pour un petit peu retomber là-dessus, je sais qu'au début j'avais lu en fait qu'au début chez Gemio vous aviez réussi en fait à contacter vos premières clientes grâce à du SEO. Donc j'ai lu un petit peu l'histoire. Donc moi à l'heure d'aujourd'hui là, je fais passer un questionnaire. J'essaye de vraiment bien cibler, de pas faire un questionnaire qui soit adressé à tout le monde. Donc j'essaie quand même de bien cibler à qui je l'envoie. Je suis aussi présente sur les réseaux sociaux. Donc j'essaye de faire un petit peu de tester Instagram, LinkedIn, ce genre de choses. Est-ce que tu as des conseils justement quand on commence de comment justement atteindre de cette cible en fait ce client potentiel quand on n'a pas forcément le produit ou voilà comment réussir à l'atteindre puisque c'est quand même une clientèle qui est assez difficile d'accès parfois.
Ah bah complètement. Une fois de plus, hein, je te dis, tu commences pas par le secteur le plus simple. Je dis pas qu'il y a des choses extrêmement simples, mais globalement, si c'est un peu cher, que c'est un besoin inutile, c'est moins simple que de vendre, je sais pas, une brosse à dents ou quelque chose comme ça. Donc c'est sûr. Après, du coup, c'est pour ça qu'il va falloir que tu te creuses vraiment la tête et que tu te dises, concrètement, j'imagine, c'est quoi mon client type? À quelle occasion est-ce qu'il va pouvoir acheter ce produit? Quels sont les quelques arguments qui vont faire que ça va lui donner envie? Et que tu te dises, concrètement, cette personne, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce que je peux la trouver? Et à quel moment est-ce que je peux la trouver? Le timing est évidemment très important, surtout pour un achat comme celui-ci. Donc, par exemple, tu me parlais de fait que c'était un bijou qui pouvait être utilisé pour avoir une, les dates, les fichiers sur son enfant, par exemple. Tu peux te dire que les jeunes mamans, tu vois, ça va être une bonne cible pour toi. Et donc, les jeunes mamans, où est-ce que tu vas pouvoir aller les cibler? Est-ce que t'en connais? Est-ce que t'en connais dans ton entourage? Est-ce que tu peux essayer de faire du bouche à oreille? Est-ce qu'il y a des réseaux? Est-ce qu'il y a des magazines? Est-ce qu'il y a des influenceuses? Est-ce qu'il y a? En gros, l'idée, c'est pas que je te fasse ton plan marketing, mais par contre, que tu te dises, dans ma réflexion, c'est, en fait, si j'ai ce client type-là, je pense que c'est un client qui va correspondre à ce que je fais, comment est-ce que je peux réussir à l'adresser? Et que t'essayes de faire comme ça. Et par contre, que tu testes, parce qu'en fait, c'est pas parce que t'as une idée en tête qui probablement est pas bête, mais c'est pas forcément en fait comme ça que tu vas trouver du premier coup. Et donc, faut pas que t'hésites à tester énormément de choses et à chaque fois à analyser, à te dire, en fait, c'est quoi l'enseignement que je peux en tirer? Est-ce que là, j'y crois? Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que je sens qu'il y a vraiment une appétence ou pas? Et c'est ça qui va te permettre, si tu veux, de finir par viser juste et ensuite trouver, le bon levier qui va faire que tu vas réussir à appuyer dessus. Après, je préfère être honnête avec toi. Au début, tu vas réussir et je l'espère, tu vas réussir à trouver quelques clients. La difficulté, c'est justement de ensuite réussir à le faire à grande échelle. Et donc, c'est pour ça que ce travail de un peu client type, il est important parce que c'est ça qui va te permettre de dire, globalement, ce type de client, les quatre leviers qui comptent pour nous, c'est ça. Je pense qu'il faut pas que tu te dises que tu vas avoir une méthode ou un levier. La réalité, c'est que pour un métier, en tout cas comme la joaillerie, non, en fait, il va falloir que tu testes plein de choses différentes, comme je disais, que tu t'accroches et en fait, au fur et à mesure, tu vas affiner, mais tu vas avoir plusieurs leviers d'acquisition différents. C'est-à-dire que tu vas avoir peut-être de la publicité sur Instagram, peut-être, je sais pas, de la publicité, peut-être une égérie, peut-être, je ne sais pas, peut-être des partenariats, peu importe. Mais en fait, si tu veux, il me paraît peu probable que tu aies uniquement un seul levier d'acquisition, c'est-à-dire une seule source, tu vois, qui va faire que tu vas avoir tes clients. Et c'est plutôt pas plus mal parce que du coup, ça veut dire que contrairement à d'autres boîtes où et c'est arrivé assez fréquemment, des boîtes qui ont eu une croissance exponentielle énorme parce qu'en fait, ils ont trouvé le bon levier. Mais le problème, c'est que le jour où, pour une raison X ou Y, cette source se tarit. Ce qui arrive toujours, d'une façon ou d'une autre. Je te donne un exemple, quand il y a eu, c'était assez connu à une époque, il y avait des comparateurs de prix sur Internet. En fait, il y a énormément de boîtes qui se sont construites et en fait qui tiraient tout leur chiffre d'affaires des comparateurs de prix. Maintenant, les comparateurs de prix, en fait, ça a quasiment disparu de la circulation sur Internet. Et du coup, tous les gens qui avaient fondé tout leur business là-dessus, sincèrement, se sont complètement effondrés. Donc, ou d'autres personnes qui avaient, par exemple, fondé toute leur acquisition sur le référencement naturel, le fameux SEO dont tu parlais. Le problème, c'est que le jour où Google change son algorithme, en gros, ces gens-là se sont retrouvés à être premiers sur la page quand tu tapais le mot-clé sur Google. Ah, ils sont sur la 40e page, ou j'exagère, peut-être la 4e. Et du coup, si tu veux, ça peut être dramatique. Donc, finalement, c'est peut-être pas plus mal que t'aies plusieurs leviers d'acquisition. Il faut juste que t'en aies un nombre raisonnable qui sont solides, mais tu vois, en avoir une dizaine, mettons, que tu vas essayer de travailler dans le temps. Et donc là, le travail où t'en es actuellement, comme t'en es vraiment au début, c'est déjà, on l'a dit, travailler ta plateforme de marque, ensuite, travailler si tu veux ce client, et pour le démarcher, juste tester plein de choses différentes pour voir qu'est-ce qui correspond concrètement le mieux à ce client-là. Sachant que comme c'est un client en plus qui visiblement va avoir une démarche un peu digitale, etc., ça va pas du tout être la même chose que quelqu'un qui s'achète qu'un bijou justement un peu plus classique, qui est un symbole, mais qui a moins ce côté un petit peu tech. Donc ça va être intéressant justement de tester tout ça.
Ouais, c'est le côté
du coup, ce que je te propose,
peu, qui diverse avec, ouais, avec la joaillerie. Donc oui, ça va pas être un profil type complètement.
Tant mieux, parce que du coup, ça te fait moins de concurrence aussi, quoi.
Oui.
Donc, ce que je te propose, c'est assez simplement que franchement, pour moi, les next steps, elles sont simples. C'est, il faut que tu travailles ta plateforme de marque. Mm-hmm. Je me fixerai à ta place une deadline. Tu te mets, 2 mois. Là, en plus, il y a l'été qui approche. C'est, je pense, une période assez propice pour faire du travail de fond comme ça. Donc, moi, je t'inviterais à beaucoup travailler cette plateforme de marque si jamais t'as l'intention de travailler un petit peu cet été. Peut-être en discutant avec, je sais pas si t'es un associé, mais des personnes dans ton équipe, des personnes qui connaissent la marque, des clients éventuellement, mais que t'essayes vraiment de mettre des mots, si tu veux, sur concrètement, c'est quoi ta différenciation, c'est quoi ta mission, c'est quoi ta marque. Si tu l'as pas fait, évidemment, je t'invite à souscrire à Growth, parce que je pense que ça t'aidera réellement. Et sinon, deuxième point, plutôt à la rentrée, parce que là, j'imagine que les gens sont un peu en vacances, mais pour moi, il faut que tu te fixes de faire 40 calls avec des clients, des prospects, et que t'essayes de comprendre globalement qu'est-ce qui pourrait les freiner, qu'est-ce qu'au contraire va leur plaire dans ton produit, quels sont les arguments qui font mouche, est-ce que le produit leur plaît au niveau de la forme, enfin vraiment que tu connaisses ton client, que tu saches où est-ce qu'ils habitent, une fois de plus c'est quoi les marques qu'ils aiment, etc. Donc ça, en fait, il y a pas de secret, il faut juste que tu passes du temps avec eux au téléphone, en faisant des cafés, pour essayer d'avoir la vision la plus fine et la plus claire possible de ses clients.
Ok, ça marche, c'est super. C'est un petit peu ce que j'avais déjà en tête, mais c'est vrai qu'il faut pousser un petit peu plus loin et c'est dans tous les cas ce sur quoi je vais travailler. J'avais déjà commencé la plateforme de marque, mais je pense que voilà, je vais souscrire en effet à Growth parce que il y a forcément des limites à un moment donné et je pense que si on veut partir sur quelque chose qui est vraiment très bien ciblé et avec un discours qui est vraiment percutant, il faut que ce soit fait au mieux. Et puis, comme tu disais, le travailler au fur et à mesure avec justement ces calls que j'aurai avec des clients ou des prospects par la suite. J'avais commencé à un moment donné et c'est vrai qu'après, j'ai été prise par autre chose, mais je pense que oui, c'est la source et c'est vraiment le début, le point de départ qu'il faut creuser encore plus.
Top, super. Écoute, hâte d'avoir des nouvelles. Tu me tiendras au courant. En tout cas, passe un très bel été. Repose-toi un petit peu quand même, mais profite-en parce que c'est le bon moment, je trouve, pour faire des travaux de fond. Et puis on se tient au courant à la rentrée.
Super, on fait ça. Merci beaucoup.
Merci, à bientôt, Laurie.
À bientôt.
Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur l'application iTunes. Et puis si iTunes, c'est pas votre truc, si Apple, vous avez pas envie d'en entendre parler, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Prenez 2-3 amis et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, ça les aidera aussi, peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à postuler aussi à la leçon du gratin si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Donc à vous de jouer et bientôt pour une nouvelle leçon du gratin.